Chapitre 21. Le bivouac de l'empereur. Le pourvoi de messieurs de Simeuse, d'Auxerre et de Michu fut la première affaire que dut juger la cour de cassation. L'arrêt fut donc heureusement retardé par les cérémonies de l'installation de la cour. Vers la fin du mois de septembre, après 3 audiences prises par les plaidoiries et par le procureur général Merlin, qui porta lui-même la parole, le pourvoi fut rejeté. La cour impériale de Paris était instituée, M. de Granville y avait été nommé substitut du procureur général, et le département de l'Aube se trouvant dans la juridiction de cette cour, il lui fut possible de faire au cœur de son ministère des démarches en faveur des condamnés. Il fatigua Cambacérès, son protecteur. Bordin et M. de Chargebœuf vinrent le lendemain matin de l'arrêt dans son hôtel au Marais, où ils le trouvèrent dans la lune de miel de son mariage, car dans l'intervalle il s'était marié. Malgré tous les événements qui s'étaient accomplis dans l'existence de son ancien avocat, M. de Chargebœuf vit bien, à l'affliction du jeune substitut, qu'il restait fidèle à ses clients. Certains avocats, les artistes de la profession, font de leur cause des maîtresses. Le cas est rare, ne vous y fiez pas. Dès que ses anciens clients et lui furent seuls dans son cabinet, M. de Granville dit au marquis « Je n'ai pas attendu votre visite, j'ai déjà même usé tout mon crédit. N'essayez pas de sauver Michu, vous n'auriez pas la grâce de messieurs de Simeuse, et il faut une victime. » « Mon Dieu !» dit Bordin en montrant au jeune magistrat les 3 pourvois en grâce. « Puis-je prendre sur moi de supprimer la demande de votre ancien client? Jeter ce papier au feu, c'est lui couper la tête !» Il présenta le blanc-seing de Michu. M. de Granville le prit et le regarda. « Nous ne pouvons pas le supprimer, mais, sachez-le, si vous demandez tout, vous n'obtiendrez rien. »« Avons-nous le temps de consulter Michu ?» dit Bordin. « Oui, l'ordre d'exécution regarde le parquet du procureur général, et nous pouvons vous donner quelques jours. On tue les hommes, » dit-il avec une sorte d'amertume, « mais on y met des formes, surtout à Paris. » Monsieur de Chargebœuf avait eu déjà chez le grand juge des renseignements qui donnaient un poids énorme à ces tristes paroles de Monsieur de Granville. « Michu est innocent, je le sais, je le dis, » reprit le magistrat. « Mais que peut-on seul contre tous? Et songez que mon rôle est de me taire aujourd'hui. Je dois faire dresser l'échafaud ou mon ancien client sera décapité. » Monsieur de Chargebœuf connaissait assez Laurence pour savoir qu'elle ne consentirait pas à sauver ses cousins aux dépens de Michu. Le marquis essaya donc une dernière tentative. Il avait fait demander une audience au ministre des Relations extérieures pour savoir s'il existait un moyen de salut dans la haute diplomatie. Il prit avec lui Bordin, qui connaissait le ministre, et lui avait rendu quelques services. Les 2 vieillards trouvèrent Talleyrand absorbé dans la contemplation de son feu, les pieds en avant, la tête appuyée sur sa main, le coude sur la table, le journal à terre. Le ministre venait de lire l'arrêt de la cour de cassation. « Veuillez vous asseoir, monsieur le marquis, » dit le ministre. « Et vous, Bordin, » ajouta-t-il en lui indiquant une place devant lui à sa table, « écrivez. « Sire, 4 gentilshommes innocents, déclarés coupables par le jury, viennent de voir leur condamnation confirmée par votre cour de cassation. Votre majesté impériale ne peut plus que leur faire grâce. » Ces gentilshommes ne réclament cette grâce de votre auguste clémence que pour avoir l'occasion d'utiliser leur mort en combattant sous vos yeux et se disent de votre majesté impériale et royale avec respect les etc. Il n'y a que les princes pour savoir obliger ainsi, dit le marquis de Chargebœuf en prenant des mains de Bordin cette précieuse minute de la pétition à faire signer aux 4 gentilshommes et pour laquelle il se promit d'obtenir d'augustes apostilles. La vie de vos parents, monsieur le marquis, dit le ministre, et remise au hasard des batailles. Tâchez d'arriver le lendemain d'une victoire, et ils seront sauvés. » Il prit la plume, il écrivit lui-même une lettre confidentielle à l'empereur, une de 10 lignes au maréchal Duroc, puis il sonna, demanda à son secrétaire un passeport diplomatique, et dit tranquillement au vieux procureur « Quelle est votre opinion sérieuse sur ce procès ? Ne savez-vous donc pas, monseigneur, qui nous a si bien entortillés ? « Je le présume, mais j'ai des raisons pour chercher une certitude, » répondit le prince. « Retournez à Troyes, amenez-moi la comtesse de Saint-Signe, demain ici, à pareille heure, mais secrètement. Passez chez madame de Talleyrand que je préviendrai de votre visite. Si mademoiselle de Cinq-Cygnes, qui sera placée de manière à voir l'homme que j'aurai debout devant moi, le reconnaît pour être venu chez elle dans le temps de la conspiration de messieurs de Polignac et de Rivière, quoi que je dise, quoi qu'il réponde, pas un geste, pas un mot. Ne pensez d'ailleurs qu'à sauver messieurs de Simeuse, n'allez pas vous embarrasser de votre mauvais drôle de garde-chasse. « Un homme sublime, monseigneur !» s'écria Bordin. « De l'enthousiasme ? Et chez vous, Bordin ? Cet homme est alors quelque chose. Notre souverain a prodigieusement d'amour-propre, monsieur le marquis, dit-il en changeant de conversation. Il va me congédier pour pouvoir faire des folies sans contradiction. C'est un grand soldat qui sait changer les lois de l'espace et du temps. Mais il ne saurait changer les hommes, et il voudrait les fondre à son usage. Maintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos parents ne sera obtenue que par une seule personne, par mademoiselle de Cinq-Cygnes. » Le marquis partit seul pour Troyes et dit à Laurence l'état des choses. Laurence obtint du procureur impérial la permission de voir Michu, et le marquis l'accompagna jusqu'à la porte de la prison où il attendit. Elle sortit les yeux baignés de larmes. « Le pauvre homme, dit-elle, a essayé de se mettre à mes genoux pour me prier de ne plus songer à lui sans penser qu'il avait les fers aux pieds. Ah, marquis, je plaiderai sa cause. Oui, j'irai baiser la botte de leur empereur. Et si j'échoue, eh bien, cet homme vivra par mes soins éternellement dans notre famille. Présentez son pourvoi en grâce pour gagner du temps. Je veux avoir son portrait. Partons. » Le lendemain, quand le ministre apprit par un signal convenu que Laurence était à son poste, il sonna, son huissier vint et reçut l'ordre de laisser entrer M. Corentin. « Mon cher, vous êtes un habile homme, lui dit Talleyrand, et je veux vous employer. Monseigneur, écoutez, en servant Fouché, vous aurez de l'argent et jamais d'honneur ni de position avouable, mais en me servant toujours comme vous venez de le faire à Berlin, vous aurez de la considération. » « Monseigneur est bien bon. Vous avez déployé du génie dans votre dernière affaire à Gondreville. »« De quoi monseigneur parle-t-il ? » dit Corentin en prenant un air ni trop froid ni trop surpris. « Monsieur, répondit sèchement le ministre, vous n'arriverez à rien, vous craignez. »« Quoi, monseigneur ?»« La mort, dit le ministre de sa belle voix profonde et creuse. Adieu, mon cher. » « C'est lui, dit le marquis de Chargebœuf en entrant, mais nous avons failli tuer la comtesse, elle étouffe. » « Il n'y a que lui capable de jouer de pareils tours, répondit le ministre. « Monsieur, vous êtes en danger de ne pas réussir, reprit le prince. Prenez ostensiblement la route de Strasbourg, je vais vous envoyer en blanc de double passeport. Ayez des sosies, changez de route habilement et surtout de voiture, laissez arrêter à Strasbourg vos sosies à votre place, gagnez la Prusse par la Suisse et par la Bavière. » Pas un mot et de la prudence. Vous avez la police contre vous et vous ne savez pas ce que c'est que la police. » Mademoiselle de Cinq-Cygnes offrit à Robert Lefebvre une somme suffisante pour le déterminer à venir à Troyes faire le portrait de Michu, et M. de Granville promit à ce peintre, alors célèbre, toutes les facilités possibles. M. de Chargebœuf partit dans son vieux berlingot avec Laurence et avec un domestique qui parlait allemand. Mais, vers Nancy, il rejoignit Gothard et mademoiselle Gouget qui les avaient précédés dans une excellente calèche. Il leur prit cette calèche et leur donna le berlingot. Le ministre avait raison. À Strasbourg, le commissaire général de police refusa de viser le passeport des voyageurs en leur opposant des ordres absolus. En ce moment même, le marquis et Laurence sortaient de France par Besançon avec les passeports diplomatiques. Laurence traversa la Suisse dans les premiers jours du mois d'octobre sans accorder la moindre attention à ces magnifiques pays. Elle était au fond de la calèche dans l'engourdissement où tombe le criminel quand il sait l'heure de son supplice. Toute la nature se couvre alors d'une vapeur bouillante et les choses les plus vulgaires prennent une tournure fantastique. Cette pensée « si je ne réussis pas, il se tue » retombait sur son âme comme, dans le supplice de la roue, tombait jadis la barre du bourreau sur les membres du patient. Elle se sentait de plus en plus brisée, elle perdait toute son énergie dans l'attente du cruel moment, décisif et rapide, où elle se trouverait face à face avec l'homme de qui dépendait le sort des quatre gentilshommes. Elle avait pris le parti de se laisser aller à son affaissement pour ne pas dépenser inutilement son énergie. Incapable de comprendre ce calcul des âmes fortes et qui se traduit diversement à l'extérieur, car dans ces attentes suprêmes, certains esprits supérieurs s'abandonnent à une gaieté surprenante, Le marquis avait peur de ne pas amener Laurence vivante jusqu'à cette rencontre solennelle seulement pour eux, mais qui, certes, dépassait les proportions ordinaires de la vie privée. Pour Laurence, s'humilier devant cet homme, objet de sa haine et de son mépris, emportait la mort de tous ses sentiments généreux. « Après cela, dit-elle, la Laurence qui survivra ne ressemblera plus à celle qui va périr. » Néanmoins, il fut bien difficile aux deux voyageurs de ne pas apercevoir l'immense mouvement d'hommes et de choses dans lesquels ils entrèrent une fois en Prusse. La campagne d'Iéna était commencée. Laurence et le marquis voyaient les magnifiques divisions de l'armée française s'allongeant et paradant comme aux Tuileries. Dans ces déploiements de la splendeur militaire, qui ne peuvent se dépeindre qu'avec les mots et les images de la Bible, l'homme qui animait ces masses prit des proportions gigantesques dans l'imagination de Laurence. Bientôt, les mots de victoire retentirent à son oreille. Les armées impériales venaient de remporter deux avantages signalés. Le prince de Prusse avait été tué la veille du jour où les deux voyageurs arrivèrent à Saalfeld, tâchant de rejoindre Napoléon qui allait avec la rapidité de la foudre. Enfin, le 13 octobre, date de mauvais augure, Mademoiselle de Cinq-Cygnes longeait une rivière au milieu des corps de la grande armée, ne voyant que confusion, renvoyée d'un village à l'autre et de division en division, épouvantée de se voir seule avec un vieillard, ballotté dans un océan de 150 000 hommes qui en visait 150 000 autres. Fatiguée de toujours apercevoir cette rivière par-dessus les haies d'un chemin boueux qu'elle suivait sur une colline, elle en demanda le nom à un soldat. « C'est la Saal, » dit-il en lui montrant l'armée prussienne groupée par grandes masses de l'autre côté de ce cours d'eau. La nuit venait, Laurence voyait s'allumer des feux et briller des armes. Le vieux marquis, dont l'intrépidité fut chevaleresque, conduisait lui-même, à côté de son nouveau domestique, deux bons chevaux achetés la veille. Le vieillard savait bien qu'il ne trouverait ni postillons ni chevaux en arrivant sur un champ de bataille. Tout à coup, l'audacieuse calèche, objet de l'étonnement de tous les soldats, fut arrêtée par un gendarme de la gendarmerie de l'armée qui vint à bride abattue sur le marquis en lui criant « Qui êtes-vous? Où allez-vous? Que demandez-vous » « L'empereur, dit le marquis de Chargebœuf, j'ai une dépêche importante des ministres pour le grand maréchal du Roc. » « Eh bien, vous ne pouvez pas rester là, dit le gendarme. » Mademoiselle de Cinq-Cygnes et le marquis furent d'autant plus obligés de rester là que le jour allait cesser. « Où sommes-nous ? » dit Mademoiselle de Cinq-Cygnes en arrêtant deux officiers qu'elle vit venir et dont l'uniforme était caché par des surtouts en drap. « Vous êtes en avant de l'avant-garde de l'armée française, madame, » lui répondit un des deux officiers. « Vous ne pouvez même rester ici, car si l'ennemi faisait un mouvement et que l'artillerie joua, vous seriez entre deux feux. »« Ah ! » dit-elle d'un air indifférent. Sur ce « ah », l'autre officier dit. « Comment cette femme se trouve-t-elle là ? » « Nous attendons, répondit-elle, un gendarme qui est allé prévenir M. Duroc, en qui nous trouverons un protecteur pour pouvoir parler à l'empereur. »« Parler à l'empereur ? » dit le premier officier. « Y pensez-vous, à la veille d'une bataille décisive ?»« Ah, vous avez raison, dit-elle, je ne dois lui parler qu'après-demain, la victoire le rendra doux. » Les deux officiers allèrent se placer à 20 pas de distance sur leurs chevaux immobiles. La calèche fut alors entourée par un escadron de généraux, de maréchaux, d'officiers, tous extrêmement brillants et qui respectèrent la voiture, précisément parce qu'elle était là. « Mon Dieu !» dit le marquis à Mademoiselle de Cinq-Cygnes, « j'ai peur que nous n'ayons parlé à l'empereur. »« L'empereur ? » dit un colonel général, « mais le voilà !» Laurent s'aperçut alors à quelques pas, en avant et seul, celui qui s'était écrié « comment cette femme se trouve-t-elle là ?» L'un des deux officiers, l'empereur enfin, vêtu de sa célèbre redingote mise par-dessus un uniforme vert, était sur un cheval blanc richement carapaçonné. Il examinait, avec une lorgnette, l'armée prussienne au-delà de la Saal. Laurence comprit alors pourquoi la calèche restait là et pourquoi l'escorte de l'empereur la respectait. Elle fut saisie d'un mouvement convulsif, l'heure était arrivée. Elle entendit alors le bruit sourd de plusieurs masses d'hommes et de leurs armes s'établissant au pas accéléré sur ce plateau. Les batteries semblaient avoir un langage, les caissons retentissaient et les reins pétillaient. Le maréchal Lannes prendra position avec tout son corps en avant. Le maréchal Lefebvre et la garde occuperont ce sommet, dit l'autre officier qui était le major général Berthier. L'empereur descendit. Au premier mouvement qu'il fit, Roustan, son fameux mamelouk, s'empressa de venir tenir le cheval. Laurence était stupide d'étonnement. Elle ne croyait pas à tant de simplicité. « Je passerai la nuit sur ce plateau, » dit l'empereur. En ce moment, le grand maréchal du Roc, que le gendarme avait enfin trouvé, vint au marquis de Chargebœuf et lui demanda la raison de son arrivée. Le marquis lui répondit qu'une lettre écrite par le ministre des Relations extérieures lui dirait combien il était urgent qu'ils obtinssent, mademoiselle de Cinq-Signes et lui, une audience de l'empereur. « Sa Majesté va dîner sans doute à son bivouac, » dit Duroc en prenant la lettre, « et quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si cela se peut. »« Brigadier, » dit-il au gendarme, « accompagnez cette voiture et menez-la près de la cabane en arrière. » Monsieur de Chargebœuf suivit le gendarme et arrêta sa voiture derrière une misérable chaumière bâtie en bois et en terre, entourée de quelques arbres fruitiers et gardée par des piquets d'infanterie et de cavalerie. On peut dire que la majesté de la guerre éclatait là dans toute sa splendeur. De ce sommet, les lignes des deux armées se voyaient éclairées par la lune. Après une heure d'attente, remplie par le mouvement perpétuel d'aides-de-camp partant et revenant, Duroc, qui vint chercher mademoiselle de Cinq-Signes et le marquis de Chargebœuf, les fit entrer dans la chaumière, dont le plancher était en terre battue comme celui de nos aires de grange. Devant une table desservie et devant un feu de bois vert qui fumait, Napoléon était assis sur une chaise grossière. Ses bottes, pleines de boue, attestaient ses courses à travers champs. Il avait ôté sa fameuse redingote, et alors son célèbre uniforme vert, traversé par son grand cordon rouge, rehaussé par le dessous blanc de sa culotte de casimir et de son gilet, faisait admirablement bien valoir sa pâle et terrible figure césarienne. Il avait la main sur une carte dépliée, placée sur ses genoux. Berthier se tenait debout dans son brillant costume de vice-connétable de l'Empire. Constant, le valet de chambre, présentait à l'empereur son café sur un plateau. « Que voulez-vous ? » dit-il avec une feinte brusquerie en traversant par le rayon de son regard la tête de Laurence. « Vous ne craignez donc plus de me parler avant la bataille ? De quoi s'agit-il ? « Sire, » dit-elle en le regardant d'un œil non moins fixe, « je suis mademoiselle de Cinq-Signes. »« Eh bien, » répondit-il d'une voix colère en se croyant bravé par ce regard. « Ne comprenez-vous donc pas ? Je suis la comtesse de Cinq-Signes et je vous demande grâce, » dit-elle en tombant à genoux et lui tendant le placet rédigé par Talleyrand, apostillé par l'impératrice, par Cambacérès et par Malin. L'empereur releva gracieusement la suppliante en lui jetant un regard fin et lui dit « Serez-vous sage, enfin ? Comprenez-vous ce que doit être l'Empire français ? Ah, je ne comprends en ce moment que l'empereur, dit-elle, vaincue par la bonhomie avec laquelle l'homme du destin avait dit ces paroles qui faisaient pressentir la grâce. Sont-ils innocents ? Demanda l'empereur. Tous, dit-elle avec enthousiasme. Tous ? Non, le garde-chasse est un homme dangereux qui tuerait mon sénateur sans prendre votre avis. « Ô sire, » dit-elle, « si vous aviez un ami qui se fût dévoué pour vous, l'abandonneriez-vous ? Ne vous... »« Vous êtes une femme, » dit-il avec une teinte de raillerie. « Et vous, un homme de fer, » lui dit-elle avec une dureté passionnée qui lui plut. « Cet homme a été condamné par la justice du pays, » reprit-il. « Mais il est innocent. »« Enfant, » dit-il. Il sortit, prit mademoiselle de Cinq-Signes par la main et l'emmena sur le plateau. « Voici, » dit-il avec son éloquence à lui qui changeait les lâches en braves, « voici 300 000 hommes. Ils sont innocents, eux aussi. Eh bien, demain, 30 000 hommes seront morts, morts pour leur pays. Il y a chez les Prussiens, peut-être, un grand mécanicien, un idéologue, un génie qui sera moissonné. De notre côté, nous perdrons certainement des grands hommes inconnus. Enfin, peut-être verrai-je mourir mon meilleur ami. Accuserai-je mieux ? Non, je me tairai. « Sachez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les lois de son pays comme on meurt ici pour sa gloire, » ajouta-t-il en la ramenant dans la cabane. « Allez, retournez en France, » dit-il en regardant le marquis. « Mes ordres vous y suivront. » Laurence crut à une commutation de peine pour Michu et, dans l'effusion de sa reconnaissance, elle plia le genou et baisa la main de l'empereur. « Vous êtes monsieur de Chargebœuf ?» dit alors Napoléon en avisant le marquis. « Oui, sire. » « Vous avez des enfants ? Beaucoup d'enfants. Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos petits-fils ? Il serait un de mes pages. »« Ah, voilà le sous-lieutenant qui perce, » pensa Laurence. « Il veut être payé de sa grâce. » Le marquis s'inclina sans répondre. Heureusement, le général Rapp se précipita dans la cabane.
« Sire, la cavalerie de la garde et celle du grand-duc de Berg ne pourront pas rejoindre demain avant midi. »
« N'importe, » dit Napoléon en se tournant vers Berthier. « Il est des heures de grâce pour nous aussi, sachons en profiter. » Sur un signe de main, le marquis et Laurence se retirèrent et montèrent en voiture. Le brigadier les mit dans leur route et les conduisit jusqu'à un village où ils passèrent la nuit. Le lendemain, tous deux, ils s'éloignèrent du champ de bataille au bruit de 800 pièces de canon qui grondèrent pendant 10 heures, et en route, ils apprirent l'étonnante victoire d'Iéna. 8 jours après, ils entraient dans les faubourgs de Troyes. Un ordre du grand juge, transmis au procureur impérial près le tribunal de première instance de Troyes, ordonnait la mise en liberté sous caution des gentilshommes en attendant la décision de l'empereur et roi. Mais en même temps, l'ordre pour l'exécution de Michu fut expédié par le parquet. Ces ordres étaient arrivés le matin même. Laurence se rendit alors à la prison sur les 2 heures en habit de voyage. Elle obtint de rester auprès de Michu, à qui l'on faisait la triste cérémonie appelée la toilette. Le bon abbé Gouget, qui avait demandé à l'accompagner jusqu'à l'échafaud, venait de donner l'absolution à cet homme qui se désolait de mourir dans l'incertitude sur le sort de ses maîtres. Aussi, quand Laurence se montra, poussa-t-il un cri de joie. « Je puis mourir, » dit-il. « Ils sont graciés, je ne sais à quelles conditions, » répondit-elle. « Mais ils le sont, et j'ai tout tenté pour toi, mon ami, malgré leur avis. Je croyais t'avoir sauvé, mais l'empereur m'a trompé par gracieuseté de souverain. » « Il était écrit là-haut, » dit Michu, « que le chien de garde devait être tué à la même place que ses vieux maîtres. » La dernière heure se passa rapidement. Michu, au moment de partir, n'osait demander d'autre faveur que de baiser la main de Mademoiselle de Cinq-Cygne, mais elle lui tendit ses joues et se laissa saintement embrasser par cette noble victime. Michu refusa de monter en charrette. « Les innocents doivent aller à pied, » dit-il. Il ne voulut pas que l'abbé Gouget lui donnât le bras, et il marcha dignement et résolument jusqu'à l'échafaud. Au moment de se coucher sur la planche, il dit à l'exécuteur, en le priant de rabattre sa redingote qui lui montait sur le cou, « Mon habit vous appartient, tâchez de ne pas l'entamer. » À peine les 4 gentilshommes eurent-ils le temps de voir Mademoiselle de Cinq-Cygne. Un planton du général commandant la division militaire leur apporta des brevets de sous-lieutenant dans le même régiment de cavalerie, avec l'ordre de rejoindre aussitôt à Bayonne le dépôt de leur corps. Après des adieux déchirants, car ils eurent tous un pressentiment de l'avenir, Mademoiselle de Cinq-Cygne rentra dans son château désert. Les 2 frères moururent ensemble sous les yeux de l'empereur, à Somosierra, l'un défendant l'autre, tous 2 déjà chefs d'escadron. Leur dernier mot fut « Laurence, 6 meurt ». L'aîné des d'Auxerre mourut colonel à l'attaque de la redoute de la Moscova, où son frère prit sa place. Adrien, nommé général de brigade à la bataille de Dresde, y fut grièvement blessé et put revenir se faire soigner à Cinq-Cygne. En essayant de sauver ce débris des 4 gentilshommes qu'elle avait vus un moment autour d'elle, la comtesse, alors âgée de 32 ans, l'épousa. Mais elle lui offrit un cœur flétri qu'il accepta. Les gens qui aiment ne doutent de rien, ou doutent de tout. La Restauration trouva Laurence sans enthousiasme. Les Bourbons venaient trop tard pour elle. Néanmoins, elle n'eut pas à se plaindre. Son mari, nommé pair de France avec le titre de marquis de Cinq-Cygne, devint lieutenant général en 1816 et fut récompensé par le cordon bleu des éminents services qu'il rendit alors. Le fils de Michu, de qui Laurence prit soin comme de son propre enfant, fut reçu avocat en 1817. Après avoir exercé pendant 2 ans sa profession, il fut nommé juge suppléant au tribunal d'Alençon et de là passa procureur du roi au tribunal d'Arcy en 1827. Laurence, qui avait surveillé l'emploi des capitaux de Michu, remit à ce jeune homme une inscription de 12 000 livres de rente le jour de sa majorité. Plus tard, elle lui fit épouser la riche Mademoiselle Girel de Troyes. Le marquis de Cinq-Cygne mourut en 1829 entre les bras de Laurence, de son père, de sa mère et de ses enfants qu'il adorait. Lors de sa mort, personne n'avait encore pénétré le secret de l'enlèvement du sénateur. Louis XVIII ne se refusa point à réparer les malheurs de cette affaire, mais il fut muet sur les causes de ce désastre avec la marquise de Cinq-Cygne, qui le crut alors complice de la catastrophe.